Et on reste à parler d'animation, et même d'animation japonaise d'ailleurs, hein, puisqu'il est temps d'évoquer en débat, cette fois-ci, la nouvelle sortie de Mamoru Hosoda.
Pas financée par le CNRS, nonobstant.
Ah non, non, non. Quoique, il y a un peu des techniques qui peuvent se rapprocher dans l'animation de
ce film-ci. Pas le scénario, en tout cas.
Non, ça c'est clair. bref... Vous avancez un petit peu. Il est temps d'évoquer donc la nouvelle sortie de Mamoru Hosoda, réalisateur primé et célébré à juste titre pour ses films tels que La Traversée du Temps, Le Garçon et la Bête, Mirai, ma petite sœur ou encore Les Enfants Loups, Ame et Yuki. Et puis personnellement, il a également réalisé Summer Wars, qui est un de mes animés préférés, tout studio japonais confondu. Bref, il nous revient aujourd'hui avec Scarlett et l'Éternité, un long métrage sorti il y a 2 semaines et qui, en tout cas à Lyon, n'est quasiment déjà plus visible. Alors, est-ce que le film est mauvais ou bien oui. Est-ce de la faute du mauvais goût du public ? Il casse toutes mes tensions.
Pardon, je suis désolé.
Écoutez, toujours est-il qu'il ne passait que à l'UGC Ciné-Cité Internationale. Où il nous a fallu nous rendre.
Un beau périple.
Exactement. Rien que pour vous, chers auditeurs et chères auditrices. Et on va en parler tout de suite. Alors, ce film d'1h51, qu'est-ce qu'il raconte ? Il raconte l'histoire d'une guerrière danoise du XVIIe siècle, Scarlett, qui se retrouve dans le monde des morts, ou plutôt dans une sorte de purgatoire infini, où passé et présent se mélangent, mais aussi vie et mort, en fait. C'est pas vraiment le monde des morts, c'est pas très clair, puisque c'est aussi là que se rejoignent les humains en phase terminale, ou à l'inverse, en phase de rémission. Bref. Et alors Scarlett, qu'est-ce qu'elle fait là ? Ça, je parle comme François Ruffin, c'est horrible. Eh bien, il se trouve qu'elle a été victime d'un complot et qu'elle a été assassinée par son oncle, Claudius, à qui l'immense acteur japonais Koji Yakusho prête sa voix. Un acteur qu'on a vu beaucoup chez Kiyoshi Kurosawa dans les années 90 et plus récemment, chez Wim Wenders. Bon alors, un oncle qui s'appelle Claudius, qui est méchant et dans un contexte danois, ça dira peut-être quelque chose aux plus érudits d'entre vous, et puis peut-être que ça dira quelque chose à l'ensemble d'entre vous si je vous dis que la mère de Scarlett, qui est la nouvelle épouse de Claudius, s'appelle Gertrude, et qu'elle a Claudius pour assassiner son premier mari, le père de Scarlett, qui était le roi du Danemark, et qui s'appelle ici Hamlet. Oui, donc effectivement, le film va nous raconter, avec une guerrière badass aux cheveux roses, le mythe d'Hamlet, décidément bien peu gâté en ce début 2026, bien peu gâté puisqu'après la prétention dégoulinante de Hamlet, ce film-ci est également raté, se prenant les pinceaux, se prenant les pieds, je ne sais pas, dans un scénario d'une indigence folle, qui réussit le tour de force d'être banal au possible et fichtrement enchevêtré, puisqu'à cette relecture de la tragédie de Shakespeare, à la sauce vidéoludique, se mêlent divers autres arcs narratifs inaboutis. Le principal défaut de Scarlett et l'Éternité, c'est en effet qu'il ne fait absolument aucun effort de world-building, pourtant concept pierre angulaire de tout monde de fantasy ou de science-fiction qui se respecte. On n'a aucune compréhension, aucune connaissance des règles qui régissent ce monde, et l'on n'arrive donc pas à s'investir émotionnellement, intellectuellement ou psychologiquement dans les enjeux de ce monde. Non, on ne comprendra pas pourquoi un dragon qui paraît codé comme l'Ender Dragon de Minecraft apparaît régulièrement dans les cieux, pas plus qu'on ne comprendra pourquoi Hijiri, le jeune homme que Scarlett va rencontrer, qui est le seul homme du 20... pourquoi est-ce le seul homme du 21e siècle à être présent dans ce monde qui croise du reste des Maoris, des Arabes du 15e siècle, des soldats du Haut Empire romain et des bons japonais. Bref, effectivement, Scarlett devra bien compter sur ce male lead à qui c'est Masaki Okada qui prête sa voix, qui jouait le beau twink dans Drive My Car. Ce male lead, donc, Hijiri, qui est infirmier à notre époque, va en effet aider Scarlett à gérer sa colère, à la canaliser dans une perspective de care. Mais cette inversion des genres n'est que de façade, puisqu'elle devra bien compter sur ce personnage masculin pour réussir sa mission, alors même qu'il était vraiment juste un handicap. Ça le hippie pendant tout le long du film. Bref, parce qu'effectivement sa mission à Scarlett, on l'a un peu perdu du haut passage, hein, vous l'aurez remarqué, ce résumé n'a aucun sens, mais je vous promets qu'il est fidèle au film. La mission de Scarlett là-dedans, c'est de se venger de Claudius, mais dans le monde des morts où Claudius se trouve lui-même. Bon, c'était pas très bien, hein, Juliette, ce film.
C'était horrible, c'était horrible. Et pourtant, j'arrivais vraiment avec l'esprit ouvert parce que j'avais un super souvenir des enfants loups et du coup, enfin, je sais pas, je pense que je m'attendais à une ambiance assez similaire. Alors que là, pas du tout. En vrai, c'est assez trash. Moi, enfin, j'avais pas un souvenir comme ça des enfants loups. Alors, j'ai été traumatisée sans le savoir, mais enfin, c'est intense comme atmosphère. Et au début, c'est quelque chose qui me convenait. Enfin, j'étais prêt à acheter ce monde des morts parce que On a vraiment des paysages qui sont époustouflants, avec une animation très détaillée, même des scènes de foule qui sont très denses et assez impressionnantes, je trouve. Et voilà, il y a quelque chose un peu mystique, on ne sait pas trop ce qu'on fait là, dans ce monde des morts, et le ciel, et la mer, enfin bref. Voilà, on a l'impression que les choses sont à l'envers, mais pas vraiment. Et les couleurs sont très travaillées et un peu glauques. Enfin, je ne sais pas, moi, des fois, j'ai eu un peu l'impression de me retrouver dans Le Seigneur des Anneaux, dans ce sorte de trip à travers plein de paysages différents, où on est censé atteindre une montagne, enfin bref. Sauf que, en fait, au fur et à mesure, c'est horrible, on comprend rien. Je trouve qu'il n'y a aucune émotion qui s'en dégage, alors que pourtant ça crie, mais qu'est-ce que ça crie? Et ça pleure. Et
ça gémit en continu, mais la moitié du film,
vraiment,
sont des gémissements.
C'est hyper intense, alors qu'il n'y a aucune intensité qui est partagée. Moi, déjà, j'ai vraiment eu du mal à comprendre. En fait, j'avais l'impression d'être face à un film d'iPad Kid. Some extent, parce que ça allait très très vite au début. En fait, on a une sorte de flashback qui nous explique comment, du coup, elle s'est retrouvée dans ce monde des morts, qui en réalité va très très vite, je trouve, ce qui nous laisse peu de temps de s'attacher, de comprendre ce qu'on fait là. Comme tu l'as dit, on n'a aucune compréhension du monde dans lequel on arrive, alors qu'on voit bien qu'il ne fonctionne pas comme le nôtre. pardon. Donc, en effet, c'est très étrange. Rien n'est vraiment expliqué aussi dans la trajectoire que les personnages sont censés faire, parce qu'ils sont censés quand même traverser ces paysages qui sont arides et ça a l'air d'être physiquement. Et en fait, finalement, c'est assez simple. Enfin, en fait, ils se retrouvent spawn là-bas à
c'est
la
ça,
fin.
Exactement, ils apparaissent comme dans un jeu vidéo, d'une certaine façon, voilà. D'un monde à un autre.
Et on ne comprend pas vraiment le lien qu'ils entretiennent aussi avec les gens qui sont autour d'eux, où ils se retrouvent en fait dans cette masse de gens à la fin. Enfin, ça n'a aucun sens. Et bon, le seul intérêt, je trouve, c'est que j'ai son passé assez rapidement, parce qu'en fait, c'est tellement dynamique et on essaye tellement de comprendre que moi, ça m'allait. Peut-être j'étais très réveillée, parce qu'Aubry hoche énormément la tête, donc je pense que voilà, c'est pas partagé. Mais ça, pour le coup, ça allait. Mais par contre, quelque chose aussi qui m'a déçu, je tiens à faire une mini parenthèse avant de donner le mic, c'est que pour avoir été époustouflée au début par les paysages et par vraiment leur côté c'est spectaculaire, etc., je trouve qu'au fur et à mesure, on perdait en esthétique avec en fait limite des filtres et des colorimétriques que je trouvais très grossières. On aurait dit des filtres Insta, enfin, c'était vraiment. Voilà. Et cette scène, quand même, qui se déroule au 21e siècle, où sous forme de clip vidéo devant.
L'éléphant dans la pièce.
Voilà, devant un centre commercial où en fait ils se retrouvent à danser et Scarlett se voit elle-même dans le 21e siècle. Et en fait, c'est horrible comme scène. C'est juste atroce. Ils dansent, etc. Mais en fait, c'est un mauvais clip de K-pop. Enfin, c'est atroce. Sauf qu'après, on revient dans le monde des morts et en fait, elle est en train de pleurer. Et en fait, c'est censé être un moment hyper émouvant pour elle. Et vraiment, ça passe tellement à côté. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Voilà, c'est ça que j'en ai pensé.
On pourra en reparler. Aubry, tu secouais la tête quand Juliette disait que c'était passé assez vite. Pour toi, tu as senti l'éternité.
Ah,
Scarlett était l'éternité.
C'est long. Et. En fait, c'est ça, c'est que surtout, genre, il y a ce truc au début où, vu qu'on n'est pas encore trop perdu par le scénario, on se dit, c'est quand même vachement beau. C'est vrai que c'est pas forcément le.
C'est très beau.
Enfin, en fait, surtout, j'ai plus le nom exact du type d'animation en tête, mais cette espèce d'animation en 3D qu'on avait déjà pu voir dans The First Slam Dunk il y a 2 ans, en fait, fonctionne assez bien et Yosoda en fait il y a le petit moment d'appréhension d'habitude et en fait ça passe bien, c'est vraiment très très beau comme tu dis, les paysages sont à couper le souffle et en fait très très vite on est pris par le côté c'est déjà par le fait que le scénario n'a aucun putain de sens, c'est à dire que moi je me suis dit qui est le scénariste qui a fait ça, on est retombé sur le terroriste du joueur de Go pour les gens qui ont les fidèles qui ont reconnu l'épisode en question et en fait non, le scénariste de ce film n'est nul autre que Mamoru Hosoda. Donc j'avoue que là j'ai pas trop compris. Je soupçonne Mamoru Hosoda d'être enfermé dans la cave de la Toei, et d'appeler à l'aide avec un film aussi étrange. Mais c'est à dire que vraiment, on l'a dit, ça n'a aucun sens. C'est un patchwork de tout plein de récits mis entre eux. On sait pas trop pourquoi. Louis t'a fait un résumé, mais en fait si on reprend les points du résumé, on est dans un monde entre la vie et la mort, enfin entre les vivants et les morts, entre passé, présent, futur. Le problème, c'est que c'est pas tous les vivants, pas tous les morts, pas tous les passés, pas tous les futurs non plus.
Pas tous les futurs du tout.
Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, visiblement, pour Mamoru Hosoda, le passé s'arrête au XVIIe siècle et le futur commence au XXIe, avec une personne. c'est-à-dire que visiblement, Ijiri, infirmier de son état, lâchement assassiné en pleine rue alors que tout le monde s'en bat les couilles.
Spoil.
Ça sera... Reprenons là, ça sera coupé au montage.
Non, c'est pas grave, personne va voir ce film.
De toute façon, il arrêtera de passer c'est vrai. Cité internationale. Qui va à Cité internationale? Mais toujours est-il que ce mec-là est le seul représentant de 400 ans d'histoire entre 1700 et 2100. C'est-à-dire que, littéralement, oui, les personnages les plus proches de lui temporellement, c'est ces putains de Danois quand même. Hein.
Non, il y a 2-3 gens du 19e qui ont des chapeaux.
Et fallait les voir ceux-là.
Ils sont cachés au moment des moments random.
Voilà, désolé, j'étais perdu dans les fantaisies racistes et orientalistes du film.
Voilà, exactement, c'est à ce moment-là. C'est quand ils sont avec les nomades du désert et qu'ils se retrouvent à camper avec eux et à jouer de la musique. Bref, je t'en prie.
Vraiment, ce moment.
Le problème, c'est que, et on y reviendra, ça, mais si seulement c'était juste le scénario qui n'avait aucun sens et qui allait dans tous les sens. Le problème, c'est qu'en plus de ça, les images au début, c'est un peu cling cling, on se dit c'est très très beau, à raison. Mais en fait, quand on scrute un peu plus, c'est quand même beaucoup plagié. Enfin, je dis ça un petit peu fort, mais il y a vraiment des plans où c'est tiré, bah ouais, au screenshot près, en tête Shadow of the Colossus de Fumito Ueda, ou vous prenez n'importe lequel Dark Souls de Hidetaka Miyazaki, c'est littéralement la même DA. Enfin, au début, il y a des chevaliers en armure, enfin tout le long du film d'ailleurs, qui n'ont pas de visage et tout, c'est vraiment les mêmes que dans Dark Souls, et les décors sont les mêmes. Alors oui, c'est des décors random de fantasy un peu apocalyptique, mais pas que en fait. Enfin, il y a vraiment des pattes comme ça. Et donc le problème, c'est que même visuellement, ça fait patchwork de motifs empruntés, voire calqués sur d'autres films. Il y a des plans à la fin du film où on a l'impression qu'ils ont pris, ils ont vu des films de Mamoru Oshii, dont je reparlerai peut-être en conseil, qu'ils ont copié-collé l'arrière-plan, puis ensuite leur personnage dessus. Donc ça fait que tout tombe un peu à plat, avec, de façon assez récurrente, des scènes... tellement goofy qu'on se demande ce qu'elle fout là, mais ça, je laisserai le débat.
Mais alors, effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire juste avant de parler de ces scènes goofy, le film, moi, ce qui me gêne beaucoup, c'est qu'effectivement, ça, c'est une espèce aussi de collage de citations de toutes diverses qui n'ont aucune efficace parce que, ok, on a Shakespeare et Hamlet, mais on a aussi, la clé, enfin, une des clés qui est donnée, c'est le vers qui est au début de la Divine Comédie de Dante.
Il y a Kaizen aussi, hein.
Il y a Kaizen.
C'est pas une blague.
Vous qui entrez ici, laissez toute espérance. Il y a le royaume des chats. Il y a avec le personnage qui doit absolument monter tout en haut d'un escalier qui disparaît. Scarlett monte les marches comme Haru les monte à la fin du royaume des chats.
Captain Marvel aussi.
Oui, probablement. mais bref, donc ça se dégonfle en continu et cet amas de citations dans le contexte qu'on a dit d'un scénario absurde, incompréhensible et de personnages inintéressants, eh ben ça fait perdre au film toute sa force et c'est dommage parce que donc j'ai regardé en fait moi hier soir dans la foulée La Traversée du Temps que j'avais pas encore vu de Mamoru Hosoda qui est un film de 2006 donc il y a 20 ans mais qui est vraiment très 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 fort et qui pourtant parle aussi de voyage dans le temps. D'ailleurs, le voyage dans le temps est un thème qui obsède visiblement Mamoru Hosoda. Simplement, dans Le Garçon et la Bête, par exemple, et dans La Traversée du Temps, il y a un ancrage dans le quotidien. Il prend le temps de présenter ses personnages. Et ce qui fait que les films sont bouleversants, mais sincèrement, très très émouvants. Ils me font pleurer. Ici, en fait, le fait de partir d'une base mythique, tragique, qui est celle de Hamlet... à sa propre sauce, ça donne l'impression qu'il n'y a pas besoin de présenter le personnage de Scarlett parce qu'on sait tous comment ça va se terminer, mais du coup, il n'y a pas d'enjeu. Le choix du mythe, ça pourrit le film de l'intérieur et de ce fait, ça lui donne une cohérence... ça lui donne une absence de cohérence qu'il essaye de pallier comme il peut, mais le problème, c'est que ça... Tu ne peux pas rendre ton personnage attachant en le montrant en train de pleurer après juste avoir eu cette vision d'elle dans le futur, en train de danser avec des gens mal animés dans un décor qui semble juste pas, le dessin ne semble pas terminé, et qui est censé être le climax émotionnel du film avec une chanson de J-pop horrible.
C'est ça qui est lunaire, c'est que, enfin, je veux dire, pour vous faire un peu le portrait de cette scène, vous imaginez le centre commercial de la Part-Dieu, vous imaginez le centre commercial Vélizy 2, vous faites un petit mix entre les deux, vous rajoutez un brin, enfin vous enlevez les couleurs en fait, vous enlevez les figurants, enfin si vous en gardez quand même, mais vous leur enlevez leur visage. Vous vous souvenez de vos années jeunesse et de la place Mi sur la Wii, vous rajoutez une ambiance de place Mi, vous mettez une chanson de J-pop quelconque qui a l'air d'être un remix traduction d'un tube de pop des années 70 british, deux personnages qui se mettent à danser sans aucun sens, d'ailleurs c'est très
avec
c'est
des moves à La La Land,
oui, en plus
si, genre, enfin, des trucs
entre Just Dance et La La Land, hein. Et le pire, c'est qu'au début, Scarlett, elle comprend pas. Elle est en mode, non, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Et on est en mode, mais oui, qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Ouais.
Et le problème, c'est qu'après, grand sourire, elle se coupe les cheveux, youpi-loupi la vie, et puis... et non, en fait, vraiment pas.
Elle est changée de cette expérience qui est...
Et enfin, surtout, on n'en reparlera jamais pendant le film, quoi.
Mais c'est ça, en fait, et puis ça c'est une rupture de ton, mais qui, moi, m'a définitivement empêché de prendre le film au sérieux, alors que j'étais... très client des premières images. Moi, je trouve que la force apocalyptique de Scarlett dans une espèce de mare de sang avec des mains qui essayent de la maintenir pour la faire disparaître.
Oui.
Je te vois secouer la tête, Aubry, mais oui, il y a un peu d'esbrouf peut-être.
Mais non, c'est juste que là aussi, genre, c'est en vrai, c'est genre. Mais c'est que c'est littéralement repompé de Berserk, en fait. Enfin, c'est les mêmes images, quoi. C'est ça qui est un peu gênant. Mais ouais, non, et puis enfin, surtout même après son petit rêve de Just Dance, il y a Ijili là, il lui dit non, tu déconnes, t'as pas rêvé ça, non, allez, arrête de dire de la merde. Et elle dit mais si, elle insiste. Et genre, même lui, il dit mais c'est pas possible. Enfin, je veux dire, même les personnages, des fois, se rendent compte
de l'aberration de leur situation. Oui, en fait, les personnages semblent commenter le scénario plusieurs fois dans le film.
C'est très perturbant. Mais en plus, c'est vrai que moi, c'est cette rupture de ton, comme toi, Louis, qui m'a eue. Et cette réaction du personnage qui se voit vraiment mais, époustouflée de cette vision du futur qu'elle vient d'avoir. Et en fait, c'est atroce. Enfin, ça rend vraiment le truc qu'on disait tout à l'heure, que les personnages n'ont aucune consistance. Il est impossible de ressentir leurs émotions. Et en plus de ça, je trouve qu'on rajoute qu'ils n'ont aucune évolution. Parce que moi, de base, j'étais prêt à acheter beaucoup de choses dans ce film, même quand très rapidement, je trouvais que ça allait trop vite et j'avais des incompréhensions dès là où on était, un peu du scénario, tout ça. Et j'étais en mode, ok, en vrai, si c'est sur cette baddie qui est en train de, voilà, de je sais pas, d'avoir des trucs dans sa bataille, enfin, de bataille de vie intérieure, voilà, enfin, et des belles scènes de bagarre, pourquoi pas, et voilà, qu'il se passe des choses et que j'ai un attachement avec cette femme sublime. En vrai, oui. Mais en fait, il n'y a même pas ça, parce que ce personnage est absolument vide, tout comme tous les gens autour d'eux qui sont mais tellement lisses. C'est-à-dire qu'on croit ces bédouins gentils qui nous apprennent à jouer de la musique. Ensuite, le méchant reste toujours méchant. Ensuite, l'infirmier reste toujours infirmier. Genre, c'est dingue d'avoir ça comme trait de personnalité, quand même. J'avais jamais
Bouddha
vu ça avant.
Bouddha n'est pas aussi gentil. Hein, c'est...
Mais vraiment, là, c'est fou. Mais il donne tout pour sauver les gens, quoi. Et c'est que ça qui l'anime et tout. Enfin, bref. Et il est mort tragiquement. Enfin,
il n'a aucune autre personnalité.
C'est nul. Et, enfin, bref. Voilà.
Et, il est gentil comme sa tête.
Ah non, mais vraiment, même sa tête hyper lisse, enfin, tout est très très lisse. Et ce qui fait qu'en fait, quand on est censé avoir ces moments d'émotion et même de plot twist et de rebondissement, en fait, il ne se passe rien parce que les personnages restent ceux qu'ils sont jusqu'à la fin. Que ça m'a amené nulle part, ça m'a pas aidé à comprendre ce qui se passait chez cette femme déchirée et meurtrie de trauma. Et c'est dramatique, quoi. Voilà.
Et le pire, c'est que, enfin. Comment dire ? En fait, ça aurait pu marcher. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 15 films en un là-dedans. Le problème, c'est que Mamoru Hosoda a l'air bien décidé à faire un 16e film qui est encore plus mauvais que les 15 autres réunis. Le truc, c'est qu'au début du film, moi, je me dis, bon, ça repompe des trucs déjà vus, entre guillemets, bon, mais pourquoi pas ? Et je me dis, le truc qui n'a pas trop de sens, le lore qui n'est pas développé, le world building qui n'est pas fait, pourquoi pas ? Parce que la fantasy avec du world building à coco, il y a un moment, on en a marre, quoi. Et justement, pour le coup, là, il y avait un truc malin de quitte à repomper des images de Dark Souls, autant repomper l'écriture vidéoludique de Dark Souls qui repose sur le fait de ne pas avoir de world building quasiment, ou enfin un truc qui est très, très dissimulé, très diffus. Le film fait un peu de ça au début, sauf qu'en fait le problème c'est que c'est constamment bloqué par le fait que les personnages ne peuvent pas s'empêcher de parler tout le temps. Et quand ils parlent pas, ils gênent, c'est encore pire. Ouais. Et quand je dis qu'ils parlent, c'est pas qu'ils ont des discussions existentielles et tout, c'est vraiment juste que toutes les 5 minutes, il y a un des personnages qui va dire... Qu'est-ce que la vie ? Qu'est-ce que la mort ?
Qu'est-ce qu'être humain ?
Qu'est-ce que l'être humain ?
Mais pitié, on n'a pas parlé ça, mais c'est dingue !
Et genre, c'est à tel point que ça en devient absurde, parce qu'il y a un moment, t'as l'impression qu'ils peuvent manger un sandwich, et l'autre, en croquant une tomate, il va se réveiller en disant « Putain, mais qu'est-ce qu'être humain, en fait ? Dans le monde d'aujourd'hui, là, en sachant qu'il est dans le monde des morts. » Et t'es en mode « Mais non, c'est pas parce que tu as oublié ton texte qu'il faut combler comme ça. » Et vu qu'ils n'arrêtent pas de parler et de dire des énormités toujours plus grosses les unes que les autres, ben en fait, le film peut juste pas développer cette espèce de truc un peu vide, de manque de world building qui aurait pu être intéressant là-dedans. Et c'est pareil du coup, enfin je veux dire, en fait, au milieu de tout ça, un truc comme le dragon, bon oui, il est un peu cliché, oui, il se comporte comme l'Ender Dragon, mais je vous jure que si on n'avait pas eu tous ces dialogues et tous ces discours ultra inconsistants avant, pendant et après, bah en fait, il aurait eu un peu plus de mystère. Surtout qu'en plus, les personnages n'ont rien à battre.
Oui, juste quand ils le voient, ils ont peur parce que c'est le...
C'est qu'en plus, il apparaît d'autant plus comme un Deus Ex Machina que quand il apparaît, vraiment, les personnages s'en battent les couilles. Enfin, les gentils, je veux dire, les méchants...
Mais tu mets une suite de Deus Ex Machina.
Mais même Dieu est choqué par le Deus Ex Machina, là. C'est vraiment... du coup, le film peut pas vraiment se tenir. Ce qui fait que même dans sa toute fin, quand il y a des moments d'émotion qui tentent un peu et qui en vrai marchent un petit peu, j'avoue, je me suis un peu fait toucher. Mais.
Ouais, chialait, c'était gênant.
Mais voilà. Et en même temps, tu vois, tu lâches une larme d'un œil et puis de l'autre, tu souris, quoi.
Ouais.
Et c'est un peu dommage parce que, bah, vraiment, enfin. Sauver Mamoru Hosoda ou trouver lui un scénariste.
Mais c'est ça. Et puis à nouveau, enfin, je veux dire, moi, sur la dégradation de la qualité de l'animation de Scarlet et l'Éternité, effectivement, moi, je comprends pas, pour avoir vu du coup des films qui datent d'il y a 20 ans, comment ils font pour avoir l'air aussi frais que s'il venait d'être créé, le film de la traversée, enfin, typiquement La Traversée du Temps, ou même Summer Wars, qui pourtant se passe dans un internet fantasmé au tournant des années 2011, donc qui a vieilli en soi, et qui pourtant, moi, je trouve, fonctionne toujours. Là, j'ai peur que ce film-ci, il fasse tellement appel à certaines technologies qu'il se perde lui-même et qu'il nous paraisse très vieilli parce qu'il il va à fond dans ce côté... dans le côté d'une animation excessivement numérique, où les personnages ultra génériques, c'est ce que j'allais dire, où les personnages n'ont pas la moindre émotion. C'est-à-dire que si je prends Summer Wars ou Le Garçon et la Bête ou La Traversée du Temps, y a un côté un peu caricatural qui va chercher du côté vraiment du manga dans la nature dessinée, on va dire. Donc avec des personnages qui vont avoir des yeux blancs quand ils sont choqués, dont le front va se colorer de bleu, qui vont voir avoir une petite espèce de petite étoile rouge pour montrer qu'ils sont en colère ou outrés. C'est caricatural, mais en même temps ça marche, ça fait que c'est des personnages qui ont des émotions. Là, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune émotion dans Scarlet et l'Éternité.
Alors pourtant, il n'y a que ça.
Alors qu'en même temps, on veut absolument... C'est là que ça rejoint Hamnet, finalement. C'est qu'on veut absolument...
C'est un déluge, ça dégouline d'émotions.
Exactement, et la moitié du temps qu'il passe à jacter pour se demander ce que c'est que l'humanité, ce que tu disais Aubry, l'autre moitié, effectivement, il n'a pas à crier, à gémir, ça en devient gênant au bout d'un moment, franchement.
Mais exactement, et ben tu sais quoi, pour conclure, moi j'ai lu il n'y a pas longtemps, dans le cadre de mes travaux, un très beau livre un peu daté d'un mec qui s'appelle Max Tessier, qui a beaucoup écrit sur le cinéma japonais, et qui écrivait dans des pages dédiées à Akira Kurosawa, que quand même, Akira Kurosawa c'était bien gentil, mais que les Japonais, il nous cassait un peu les pieds à faire des films de géniards. Et notamment que, je cite, pour des spectateurs occidentaux à l'esprit rationnel, c'était quand même un peu compliqué à supporter tous ces gens qui pleurent prostrés au milieu des cadres, je cite. C'est pas exactement dit comme ça, mais quasiment. Et ben, au début, j'étais pas d'accord avec Max. Je trouvais qu'il poussait quand même le bouchon un peu loin, que c'était un peu raciste sur les bords, on va pas se mentir.
Tu oses une conclusion là qui est quand même...
Après avoir vu Scarlet et l'Éternité, je me dis que Mamoru Hosoda a peut-être une tendance dans Scarlet et l'Éternité à geindre plus que deux raisons. Et c'est bien dommageable. Et je sais pas où je vais avec ça.
Je pense qu'effectivement, c'est le signe qu'il faut qu'on conclue sur Scarlet et l'Éternité et qu'on passe au conseil pour se remettre d'un film pareil. Et on passe donc effectivement au conseil pour la semaine. Juliette, qu'est-ce que tu nous recommandes ?
Oui, j'ai pas regardé énormément de films ces derniers temps. Par contre, je suis en train de lire un livre qui est incroyable. Le livre d'Adélion, mon vrai nom, est Elisabeth, qui est absolument génial. Voilà, bon, on en a beaucoup entendu parler. Moi, j'étais passée totalement à côté de cette hype médiatique, alors que pourtant, il y en a eu une.
Mais là, du coup, septembre.
Oui, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça fait un peu longtemps qu'elle faisait sa promo. Enfin, elle est passée pas mal à la radio et tout même. Et en fait, c'est absolument fantastique. Donc, cette Adélion, qui est une chercheuse, revient sur des histoires de famille assez sombre et mystérieuse, notamment celle de son arrière-grand-mère, Betsy, qui était connue pour être folle, malade, et qui en fait a un énorme tabou dans sa famille. Et donc, elle va écrire ce roman en enquêtant au sein de sa famille, du coup, sur cette femme. Et moi, je trouve la forme assez sympa, une alternance entre des lettres d'époque, des entretiens qui sont réécrits, des moments un peu plus... de monolangue intérieure même d'Adélion et c'est vraiment génial, c'est absolument bouleversant. Il y a quelque chose de l'ordre de la micro-histoire qui est très gratifiante, avec vraiment une enquête, avec des archives, des entretiens, mais en même temps quelque chose de très très universel dans ces schémas familiaux avec des silences et des non-dits sur certaines personnes, ce qui fait que je trouve que c'est de manière universelle un livre extrêmement touchant, qui en plus a le mérite d'être hyper beau. Voilà, oui, en tant qu'objet, c'est génial.
C'est un
voilà.
très bel objet.
L'édition du sous-sol, c'est super. Voilà, donc je vous le recommande amplement, d'autant plus qu'elle vient à l'ENS le 2 avril donner une performance en cantor. Alors je sais pas s'il y a encore des places.
On mettra le lien dans la description.
Mais voilà, mais en tout cas, si vous pouvez, il faut courir en cantor.
Absolument, au terme d'une journée d'études, donc qui sera peut-être moins un plus grand public, entre guillemets, que la lecture performée, mais une journée d'études qui a l'air passionnante, exactement, entre sciences sociales, littérature et cinéma, sur les questions, justement, de féminité et de folie, qui sera sans doute beaucoup plus passionnante aussi que Scarlett et l'éternité. Aubry, pour la semaine, tu teasais un petit peu tes conseils tout à l'heure, j'ai l'impression.
En fait, j'ai changé. Non, je vais quand même le faire, parce que sinon, j'aurais teasé pour rien. Jeter un coup d'œil à Ghost in the Shell 2 Innocence de Mamoru Oshii, parce que c'est pas les mêmes techniques d'animation, mais il y a déjà un mélange entre animation 3D numérique et 2D dessiné. C'est passionnant, c'est fascinant, c'est trop bien comme film. Vraiment, s'il y a une raison pour laquelle Mamoru Oshii est vraiment quelqu'un de si important dans l'animation japonaise, c'est peut-être ce film, qui est encore meilleur que le précédent et que L'œuvre de l'ange. C'est fou. Mais non, mon vrai conseil, surtout parce que c'est plus raccord avec Scarlett et l'éternité, en termes de fantasy et tout, prenez une manette, un émulateur, si vous avez la console ou pas, mais essayez de vous lancer à un moment dans Shadow of the Colossus, jeu initialement sorti sur PS2 du fin fond des années 2000, puis remasterisé un nombre incalculable de fois, ce qui est très bien d'ailleurs, mais c'est un jeu qui est pas si long que ça en fait, vraiment il y a... Enfin, vous êtes un petit guerrier à cheval avec son épée dans une étendue désertique où il n'y a personne, pas un pélo pour vous faire la conversation, littéralement personne. Les seuls...
Jusqu'à ce qu'un infirmier dépanne.
Tout Jésus. Non, il y a les seuls trucs avec vous dans ce monde gigantesque et désert, c'est 16 colosses qui font la taille de montagne et qu'il va falloir trucider un par un sans vous dévoiler plus encore le scénario. C'est d'une poésie infinie, et surtout en fait là où Scarlett est dans la profusion totale et nous envoie beaucoup 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 plus de trucs qu'on ne voudrait recevoir, Shadow of the Colossus marche exactement au procédé inverse, c'est-à-dire faire avec du rien. C'est-à-dire qu'en fait la moitié Shadow of the Colossus, c'est vous sur votre cheval qui marchez dans des prés, qui marchez dans des déserts, parce que vous cherchez ces colosses qui sont vraiment à l'autre bout de la carte, qui est gigantesque. Et c'est une sacrée expérience de vide, en fait c'est presque même, enfin c'est voire carrément angoissant, surtout par moments si vous êtes thalassophobe, ce jeu n'est pas pour vous, enfin si, mais voilà, c'est vraiment très très bien, et c'est un bon moyen de respirer un peu après Scarlett et l'éternité.
Merci beaucoup, et moi pour le coup je vais prendre un peu le rôle de Juliette, puisque je vais vous recommander le programme de l'abonnement du mois sur la Cinéthèque du 10 mars au 10 avril, qui donc est là depuis deux semaines et qui va encore être là pendant deux semaines. Et vraiment, je vous le recommande parce qu'il est très, très enthousiasmant. Il s'intitule De ville en ville et il est consacré à des films français ou de réalisateurs qui tournent en France, en tout cas, qui explorent des villes moyennes ou en tout cas des villes moins grandes que Paris, Lyon ou Marseille. Et c'est l'occasion de se promener cinématographiquement à Clermont, au Havre, à Nice ou encore à Limoges. Et Limoges qui est l'occasion de vous parler de mon coup de cœur personnel de cette sélection, qui est Quelques jours avec moi de Claude Sautet avec Daniel Auteuil, Sandrine Bonner dans les rôles principaux et Jean-Pierre Marielle, Dominique Lavanant ou encore Vincent Lindon jeune dans les rôles secondaires. Il ressemble beaucoup à Pierre Ninet. C'est un film qui est particulièrement hilarant, qui a ses longueurs, ses invraisemblances, mais que j'aime vraiment beaucoup pour sa cohérence dans la trajectoire de Sautet, plus général dans ce monde de sa filmographie, je veux dire, qui n'a jamais cessé de filmer une bourgeoisie exténuée par son capitalisme et qui n'a jamais fait autre chose que de vouloir fuir Paris. La bourgeoisie, pas Sautet. Et c'est bien de cela qu'il s'agit ici, avec Daniel Auteuil en héritier d'une très grosse chaîne de la grande distribution qui prend quelques jours à Limoges où il s'éprend de la domestique de ses hôtes. C'est un film ambigu, très drôle donc, et que pour tout faible que je puisse le trouver objectivement, eh ben, je n'arrive pas à oublier depuis près d'un an que je l'ai vu. C'est donc bien le signe qu'il y a quelque chose de plus là-dedans que je vous invite à aller creuser. Vous pourrez aussi voir Brise de Nice, Ma nuit chez Maud, Jaco de Nantes, Remorque ou encore Chronique d'une banlieue ordinaire. Tous ces conseils, vous pouvez les retrouver sur la page du comptoir sur transistor.fr. Merci à tous les trois, Corentin, Juliette, Aubry, pour ce nouveau numéro du comptoir du cinéma. Merci aux auditeurs et aux auditrices. On se retrouve la semaine prochaine et on parlera encore d'exploration spatiale, par rapport à Planète, je le dis, et ainsi que de Ryan Gosling. Branchez-vous Transistor, donc, ne manquez rien de tout cela, qui sera comme d'habitude disponible sur transistor.fr et sur toutes vos plateformes de podcast. D'ici là, portez-vous bien, partagez-nous. Et si le cœur vous en dit de nous rejoindre, surtout, n'hésitez pas. Bonne soirée, bonne journée à toutes et à tous et à bientôt. Vive le cinéma et vive Transistor.